Bonjour à tous, jeudi 2 février, 16h précise, vous écoutez CILS FM 107,9, votre radio communautaire francophone à Victoria. Bienvenue dans l'émission Le Débrief, merci de monter à bord. Mon nom est Alexis Gagnon, je vous accompagne en info et en actualité jusqu'à 17h. En interview aujourd'hui, on se fait plaisir avec un sujet culturel. L'artiste de Victoria, Nathalie Leduc, est avec nous pour parler de sa production récente, Les poèmes à la tronçonneuse. Je serai en conversation avec Nathalie vers 16h40. En attendant, on envoie tout de suite les bulletins de Denis Lépine, un peu de météo de l'autre côté dans 4 minutes et la suite des infos du jour. Bonne émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour madame, messieurs. La Société royale du Canada a tenu, elle aussi, à prendre position suite au décret américain sur les réfugiés et les ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. La Société a déclaré prévoir que cette décision limitera de manière déraisonnable les allées et venues des universitaires et des étudiants par-delà les frontières. Fondée en 1883 par un acte du Parlement canadien, eh bien, la société parle même d'une situation source d'incertitude et de préjudice pour beaucoup de gens. Jim Carr, ministre des Ressources naturelles du Canada, tiendra une conférence de presse en fin de journée. Il fera le point sur la mission au Mexique. Le gouvernement canadien a précisé que la présence du ministre en sol mexicain a pour but notamment de réaffirmer la force de partenariat entre les deux pays. Il s'agit aussi pour Ottawa de déterminer des possibilités de collaboration accrue, notamment dans les domaines de l'exploitation durable, des ressources minérales, de la sécurité énergétique et des énergies propres. La mission canadienne prend fin vendredi. Un partenariat regroupant les aéroports de Calgary, d'Ottawa et de Vancouver vient de lancer un site Internet. Celui-ci a pour but de prévenir les gens des risques de la vente des aéroports du Canada à des intérêts privés. Le président de l'administration de l'aéroport de Vancouver, Craig Richmond, a dit que le modèle actuel fonctionne à la fois pour les passagers et les communautés. Le partenariat a souligné dans un communiqué que le site Web servira à éduquer les Canadiens des répercussions négatives que cette vente aurait sur les voyageurs et les communautés. Des douzaines d'organisations de droits de la personne et des syndicats demandent au gouvernement Trudeau de développer et de mettre en œuvre un plan national pour l'égalité entre les sexes. L'ONU a d'ailleurs recommandé l'élaboration d'un tel plan. La demande fait suite à la plus récente mobilisation mondiale pour les droits des femmes. La décision de Justin Trudeau de retirer le mandat de modifier le mode de scrutin des mains de la ministre des Institutions démocratiques a fait réagir notamment le NPD. Nathan Cullen, porte-parole du NPD en matière de réforme démocratique, a qualifié le premier ministre Trudeau de menteur. Il a dit lors d'une rencontre avec les médias que les libéraux tentent de trouver n'importe quelle excuse, aussi faible soit-elle, pour justifier ce mensonge face aux Canadiens. Publication du 9e rapport annuel de Deloitte sur le secteur minier canadien, et la firme indique que pour la première fois depuis des années, un vent d'optimisme prudent souffle sur le secteur minier à cause, entre autres, d'une hausse du prix des produits de base. Leader du secteur minier chez Deloitte, Philip Hopwood, a indiqué que les sociétés minières doivent maintenant prendre des décisions cruciales concernant leurs investissements et la manière dont elles se positionneront dans les années à venir. L'opposition fédérale a réagi suite à un message envoyé par le bureau du premier ministre Trudeau au réseau Fox concernant l'attentat de Sainte-Foy. Le réseau américain avait écrit sur son compte Twitter que le suspect était d'origine marocaine. Le bureau du premier ministre avait contacté Fox pour indiquer qu'il fallait supprimer le message, chose qui avait été faite mardi soir. En chambre, Lisa Raitt a demandé pourquoi le bureau du premier ministre a agi de la sorte. Les propos de Lisa Raitt ont été appuyés par les députés Tony Clement et Maxime Bernier. Février est le mois de l'histoire des Noirs au Canada. Mélanie Joly, ministre du patrimoine canadien, a fait une déclaration. Elle a dit encourager tous les Canadiens à participer aux nombreuses activités qui se dérouleront pendant le mois de l'histoire des Noirs cette année. C'est aujourd'hui qu'a lieu à Ottawa la conférence Prime Time. La conférence est un événement de réseautage pan-canadien pour quelques 600 chefs d'entreprise du secteur du long-métrage, de la télévision, de l'industrie des télécommunications, mais aussi de la radiodiffusion et des médias interactifs. L'événement se déroule à l'hôtel Westin. Au sport au hockey, dans la Ligue nationale, victoire de Calgary 5-1 contre le Minnesota. Washington a eu raison de Boston 5-3 et Los Angeles a blanchi le Colorado 5-0. Ce soir, Montréal sera à Philadelphie, Ottawa à Tampa Bay, Dallas recevra Winnipeg, Edmonton à Nashville, Toronto à Saint-Louis et San Jose à Vancouver. NBA, victoire de Boston 109-104 contre Toronto. Et au football canadien, les Argonauts de Toronto ont mis sous contrat le secondeur de ligne Victor Butler. Butler a passé 7 saisons dans la NFL, 4 avec les Cowboys de Dallas.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9 à Victoria. Il est 16h05 et des poussières. On a 6 degrés au centre-ville de Victoria. C'est également 5 ou 6, ça oscille entre 5 et 6 du côté de Vancouver et 4 degrés à Nanaimo. Ici sur Victoria, en soirée, le mercure descendra à 1 degré. Aucune précipitation dans les prochaines heures. Demain, possibilité d'averse de neige, un mélange d'une pluie et de neige est prévu par Environnement Canada. Il s'agirait d'averses intermittentes en cours de journée avec un maximum de 2 degrés et le mercure descendra à 0 en fin de journée et en soirée. Pour le week-end, c'est sensiblement la même chose, 2 degrés samedi 4 février et 2 degrés également dimanche 5 février, des nuages, un peu de pluie et un peu de neige, un mélange des deux, donc pour le week-end, les 4 et 5 février. Et voilà, donc sinon à 16h06, on a 6 degrés au centre-ville. On se rend tout de suite au Radio-Journal des Nations Unies, on se retrouve de l'autre côté avec les nouvelles provinciales.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal d'ONU Info. Avec en titre le Conseil de sécurité consacré à l'Irak, l'appel de 4 experts des droits de l'homme pour suspendre l'exécution d'un jeune Iranien qui était mineur au moment des faits qui lui sont reprochés. Nous reviendrons aussi sur l'attaque meurtrière à la frontière du Cameroun et du Nigeria, et puis dans le dossier coup de projecteur sur l'appel du HCR avant le sommet européen de La Valette, sommet consacré aux défis migratoires de la Méditerranée centrale. Les jours du soi-disant califat de Daesh en Irak sont comptés. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le représentant spécial du secrétaire général dans ce pays. Devant le Conseil de sécurité, Jan Kubisch a annoncé que dans un avenir proche, les opérations de libération du pays seront terminées, comme c'est d'ailleurs le cas dans l'est de Mossoul. Il a toutefois averti que les combats demeureront un défi énorme dans la vieille ville et que la crise humanitaire pourrait se prolonger pendant des années encore. Jan Kubisch qui a aussi insisté sur l'importance d'appuyer la réconciliation nationale et l'octroi de la justice. On l'écoute.
Le monde n'oubliera pas les crimes horribles commis par Daesh. Pour rendre justice aux victimes d'abus et de violations des droits de l'homme, il faudra rétablir le système juridique officiel, documenter les violations et les abus de manière efficace et efficiente et mettre en place des mécanismes juridiques non formels afin d'établir la vérité, créer des programmes de réhabilitation et de soins spécialisés pour les femmes ainsi que des programmes de déradicalisation pour les enfants soumis à un endoctrinement extrême. Il faut aussi prêter attention aux besoins des minorités ethniques et religieuses qui ont été disproportionnellement affectées par le conflit. Depuis 2003, l'Irak a perdu plus de la moitié de sa population de minorités ethniques et religieuses. Je crains qu'à moins d'une réaction adéquate, le processus ne se poursuive, même après la défaite de Daesh. Il faut donc répondre aux défis sécuritaires spécifiques et autres préoccupations des minorités pour leur permettre de retourner chez elles.
Quatre rapporteurs de l'ONU chargés des droits de l'homme ont appelé jeudi l'Iran à suspendre l'exécution de Hamid Ahmadi. Ce dernier a été condamné à mort pour des actes commis alors qu'il était mineur. Il n'avait que 17 ans au moment des faits qui lui sont reprochés. De plus, ses aveux auraient été obtenus sous la torture. Les experts indépendants de l'ONU rappellent que l'exécution de Hamid Ahmadi est prévue ce week-end. Alpha Diallo.
Selon ces experts indépendants de l'ONU, l'exécution d'Ahmed Ahmadi est prévue ce samedi en Iran. Et face à l'imminence de cette pendaison, quatre rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont demandé à Téhéran de sursoir à l'exécution d'un ancien délinquant juvénile. L'expert sur les droits humains en Iran, le rapporteur sur les exécutions sommaires, celui sur la torture et le rapporteur spécial sur les droits des enfants rappellent que les normes internationales interdisent catégoriquement l'imposition et l'exécution de la peine de mort aux personnes de moins de 18 ans. Or, Ahmed avait 17 ans au moment des faits. Il souligne donc que les garanties les plus strictes en matière de procès équitable n'ont pas été respectées. À cet égard, les experts onusiens déplorent que les allégations de torture et d'aveux obtenus sous la contrainte n'aient pas été prises en considération durant l'enquête. Il faut juste rappeler que c'est la troisième fois que l'exécution d'Ahmed Ahmadi est programmée après avoir été condamné à mort en première instance en 2009. Selon les rapporteurs spéciaux de l'ONU, les deux précédentes fois, son exécution avait été suspendue à la dernière minute. Alpha Diallo, Nations Unies, Genève.
Le Conseil de sécurité et le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel condamnent l'attaque meurtrière contre une équipe de surveillance technique des Nations Unies déployée le long de la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Selon des informations préliminaires, un groupe armé a attaqué l'équipe le 31 janvier vers 14h, tuant 5 personnes et blessant plusieurs autres. Parmi les victimes figurent un consultant indépendant de l'ONU, 3 ressortissants nigérians ainsi qu'un ressortissant camerounais. Ni l'identité des assaillants ni la raison de l'attaque ne sont connus, comme le confirme Kouider Zerouk. Il est porte-parole du bureau de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest.
On n'a aucune information, donc on ne peut pas attribuer l'attaque à un groupe ou à une source qui ne serait pas confirmée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, aussi bien du côté camerounais, parce que ça s'est passé sur le territoire camerounais, mais vous savez, c'est aussi la frontière, donc ce sont des territoires qui se touchent avec des autorités locales qui se rencontrent et qui se croisent, ainsi que les populations d'ailleurs. Du côté camerounais, il y a une enquête qui a été déclenché pour comprendre et identifier les auteurs de cette attaque mortelle. Et de notre côté aussi, des Nations Unies, nous avons aussi lancé une investigation en coordination avec les autorités locales pour comprendre et puis surtout pour identifier, on l'espère, les auteurs de cette attaque.
Enfin, direction Bangui en République centrafricaine et coup de projecteur sur le projet Jeunes à risque qui, grâce au soutien de la MINUSCA, a permis à d'anciens membres de groupes de jeunes armés jusqu'aux dents de réhabiliter l'école Yakité. On écoute les témoignages d'Ibrahim Abdelrahman, de la jeunesse d'autodéfense du pont Yakité, de Ludovic Bienvenu, président de la jeunesse du 3e arrondissement, et de Fatou Keïta, elle est experte de la création d'emplois pour le projet Jeunes à risque à la MINUSCA.
Nous avons déployé un grand effort pour essayer de sensibiliser tous les jeunes, l'importance de l'école d'abord, l'importance de l'avenir de nos petites sœurs, petits frères, nos enfants. Et après cela, nous avons fait une sensibilisation de porte à porte. Voici l'importance de l'école. Il faut qu'on laisse la libre circulation. Il faut qu'on vit ensemble pour que l'école puisse reprendre. Donc comme ça, ça va permettre à nos enfants, nos petites sœurs, nos petits frères d'aller à l'école parce que c'est leur vie.
On a dépassé l'âge de l'enfance, donc quitte à nous de penser aussi à nos petits frères, petites sœurs et nos cadets aussi de fréquenter une école de qualité. C'est ça qui nous a motivés de se relancer, à faire de pour parler avec les jeunes, avec les parents, pour créer cette ambiance pour la réouverture des écoles dans le 3e arrondissement.
Notre projet de société va commencer par l'école Yakité.
Retour sur l'actualité, le défi migratoire de la Méditerranée centrale sera donc le sujet principal du sommet informel européen qui se tient vendredi à La Valette. À la veille de cette rencontre dans la capitale maltaise, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Organisation internationale pour les migrations ont invité les dirigeants européens à répondre au drame des migrants et des réfugiés en Méditerranée. Pour en savoir plus, Alpha Diallo a joint Cécile Pouilly, elle est porte-parole du HCR à Genève.
Ce que nous demandons, c'est une Union européenne qui soit forte pour qu'elle soit engagée au-delà de ses frontières afin d'aider à trouver des solutions pour les gens qui sont dans le besoin. Cela inclut de renforcer des capacités pour sauver les vies en mer. C'est aussi renforcer l'état de droit dans un certain nombre de pays et notamment la Libye. Et puis, bien sûr, lutter contre les réseaux criminels.
Et par rapport à la Libye et cette situation en Méditerranée centrale, c'est-à-dire qu'est-ce que vous redoutez par rapport à la situation en Libye et le sort des migrants et des réfugiés?
Alors vous savez, les informations que nous recevons de Libye font état d'une politique de détention quasiment automatique des réfugiés et des migrants, et cela dans des conditions quasi inhumaines. Et donc ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une ouverture de services de réception qui soient ouverts, où les gens puissent vivre dans des conditions de sécurité et de dignité, y compris les enfants et les nombreuses victimes de trafic humain qui se trouvent sur place, et bien sûr dans le respect de dispositions fondamentales en termes de protection. C'est très important que cette situation passe d'une détention automatique à la création de services de réception en bonne et due forme.
À cet égard, l'OIM et le HCR indiquent qu'il n'est pas approprié de considérer la Libye comme un territoire sûr pour renvoyer ses réfugiés dans certains domaines.
En effet, étant donné le contexte qui prévaut, il n'est pas approprié de considérer la Libye comme un pays tiers sûr, ni d'envisager un traitement extraterritorial des demandeurs d'asile dans le nord de l'Afrique.
Concrètement, ça veut dire quoi? Parce que de plus en plus, il y a des informations qui sortent dans les médias qui disent que les Européens veulent, par exemple, faire le tri et renvoyer certains qui ne sont pas dans le besoin en Libye.
Alors, vous savez, c'est vrai qu'on entend beaucoup de rapports. Nous sommes attentifs, évidemment, à la situation et la raison aussi de...